Dans notre société française, souvent maltraitée, d'autoproclamés experts tentent vainement d'interpréter des éléments vides de sens pour leur donner une connotation politique. Ils veulent régulièrement faire résonner des théories fumeuses sur le genre et de prétendues discriminations. Récemment, les médias, qui tombent systématiquement dans le panneau, se sont fait l'écho d'un ouvrage intitulé, je cite, « Discrimination dans la ville ». Ou rien que le titre, « Je tremble », ça fait peur dans la ville. Ouvrage d'une obscure sociologue, Madame Dagorn, qui dénonce le fait que l'espace public est un lieu d'exclusion. Ces publications masquent un discours absent de tout fondement scientifique dans une novlangue qui cherche une légitimité factice. Nous lisons donc dans cette littérature, je la cite, « À propos de l'espace public, se pose la question de l'expérience quotidienne que le côté juridique ne mesure pas, une dimension expérientielle différente en fonction des individus et des critères discriminatoires. L'usage de la ville est ségrégué, discriminant et différencié. » Eh bien nous, Madame Dagorn, à 15 on the Rock, on ne vous lira pas. On met de la musique, du rock et même plutôt fort pour faire cesser ce charabia accusateur d'une société française qui, me semble-t-il, met tout le monde à égalité. Surtout dans l'espace public. Que je sache, dans notre vieille contrée, on ne se sent pas discriminé dans la rue. Bienvenue à tous sur Radio MDM, c'est François Micro pour une heure de musique et de musique seulement. Fuyons la politique, l'engagement, la responsabilité et soyons enfin légers et heureux. Quand on fait une émission de rock sur les années 68 à 83, je vous rappelle 15 on the Rock, 15 c'est pour ses 15 ans, qui constituent l'âge d'or du rock, on ne passe pas quelques semaines malheureusement sans apprendre la disparition de tel ou tel musicien qui avait 20 ans dans les 60s. Ce fut le cas très récemment puisqu'on vient d'apprendre le décès le 5 mars dernier de Gary Rossington, le lead guitar de Lynyrd Skynyrd. On le croyait indestructible. Il avait survécu à un terrible accident de la route en 76 et surtout au crash d'avion qui avait décimé la bande le 20 octobre 1977. Il était donc à 71 ans, le dernier des fondateurs vivants de Lynyrd Skynyrd. Il avait écrit des thèmes mythiques, notamment le culte Sweet Home Alabama, mais aussi les mélodies de tant d'autres succès du groupe. Musicien finalement rangé des voitures et de tous les excès, il s'était marié en 79 à une choriste de 30th Special avec laquelle il avait fondé le Rossington Collings Band avec Alan Collings, autre guitariste survivant du Lynyrd. Alors un hommage à Gary Rossington, on écoute une composition du guitariste avec des paroles très justes de Johnny Van Zandt, c'est Simple Man, publié sur l'album Pronounce Lynyrd Skynyrd en 73. Rossington venait juste de perdre sa mère et le thème a été pensé en souvenir des conseils qu'elle lui prodiguait lorsqu'il était gosse. Gary Rossington, décédé tout récemment, et Lynyrd Skynyrd pour Simple Man. Someone Vous êtes sur Radio MDM pour 15 on the Rock, le meilleur du rock et du hard, pour les 15 glorieuses années 1968-1983. Je voudrais aujourd'hui vous parler de groupes phares de cette période qui ont vraiment compté dans l'écriture de cette formidable saga du hard rock de ces années-là. Alors j'ai eu la chance de pas mal voyager, un petit peu aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, en Turquie, bref. J'ai beaucoup discuté de rock dans ces pays avec des gens qui connaissaient vraiment. Et je suis totalement déconcerté par le peu de culture en retour qu'ont nos citoyens du rock. Comme si dans l'Hexagone, le rock ne se réduisait qu'à AC/DC ou à Pink Floyd, aux Stones et à U2. Bref, très peu, ici, écoutent Uriah Heep, Ted Nugent ou encore Robin Trower. Alors parmi les plus célèbres à l'étranger, dont je n'entends quasiment, mais alors quasiment jamais parler en France, il y a de vraies idoles du rock, adulées, incontournables, dont on doit reconnaître le talent et l'importance. Le tout premier de ces groupes, ce sont les Américains de Mountain. C'est l'un des tout premiers groupes à créer, à fonder le hard rock à la fin des années 60. Eux sont originaires du Bronx, à New York. En 69, ils font un tabac Woodstock, mais pour une obscure raison, leur set génial sur scène ne figure pas dans la double compilation qui est parue à l'issue du festival. Le leader de Mountain, c'est Leslie West, un guitariste exceptionnel. Il pesait alors plus de 120 kilos, s'habillait en tenue psyché jaune, d'où son surnom du canari psychédélique. À la mort de Hendrix, Clapton et Jeff Beck le déclarent comme le meilleur guitariste de rock désormais vivant. Alors découvrons donc les Ricains de Mountain, si vous ne les connaissez pas, dans leur premier album, Climbing, un chef-d'œuvre intégral qui sort en 70. À la basse, il y a aussi un excellent musicien, Félix Pappalardi. Sur ce vinyle, il n'y a que des pépites. C'est difficile de trancher, mais j'ai choisi pour vous un rock classique, Never in My Life. Les injustement méconnus en France, Mountain, en 1970, avec leur premier vinyle.
Yeah!
Et puis Mountain, c'est aussi l'un des morceaux qui est à mon avis dans le top 10 des chefs-d'œuvre du rock. C'est Nantucket Sack Ride, un titre éponyme de leur second 33 tours qui sort en 71. Le morceau s'inspire d'un fait réel. Au 19e, de frêles embarcations pêchaient le cachalot au large de Nantucket sur la côte est des États-Unis. L'une d'elles, qui s'appelait l'Essex, harponne un cétacé qui la fait chavirer. Alors il tombe dans l'eau, se réfugie sur un îlot dans cette zone perdue. Et au bout de quelques semaines, sur ce récif, les matelots, affamés, ont dû se résoudre au cannibalisme. On tire à la courte paille et la victime, Owen Coffin, le plus jeune d'entre eux, est alors sacrifié et dévoré par les marins. Le titre Nantucket Sack Ride fait référence à l'image d'une barque qui chavire du fait de la puissance destructrice d'un cachalot harponné. Pour la petite histoire, Leslie West n'aimait pas jouer ce morceau, je le cite. Je le détestais, c'était un putain de thème si difficile à jouer. Il y a plein d'accords imbriqués et pas ces quatre accords basiques avec leur pont classique. Il y a des riffs lourds, un passage où Pappalardi utilise un minuscule clavier qui sonne comme un accordéon. J'étais alors jeune et impatient, j'arrivais pas à me mettre ce morceau dans la tête, c'était beaucoup plus qu'un thème classique de rock blues ordinaire. Fin de citation. Mais assez parlé de ce thème unique par sa beauté, son lyrisme, sa mélodie mélancolique et lancinante et ses paroles puissantes, voici le très méconnu et sous-estimé Nantucket Sack Ride de Mountain, une pépite de 1971.
Don't cry, little Robin Marie.
Autre groupe totalement snobé ou ignoré par le public français, ce sont les Anglais d'Humble Pie. Ils sont contemporains de Mountain, mais eux sont londoniens. À l'origine, c'est un petit mode de Londres, Steve Marriott, qui traîne dans les boîtes à la mode à la fin des années 60. Il y rencontre un virtuose de la guitare, Peter Frampton, et les deux copains forment Humble Pie en 1969. Cette année-là, le groupe se cherche un peu et joue plutôt du country folk. Puis ils trouvent leur son en 70 pour l'album éponyme Humble Pie, qui mêle habilement soul et hard. Le suivant, en 72, Rock On, révèle tout le talent d'écriture et de chanteur de Marriott et le son rock de Frampton à la guitare. Le vinyle marque l'histoire du rock anglais avec des tubes planétaires de Shine On à Redneck Jump en passant par Stone Cold Fever qu'on découvre à présent. Voici la quintessence du hard anglais avec Humble Pie et le thème très rock Stone Cold Fever.
Yeah!
Cette même année de 71, Frampton va voler de ses propres ailes et on connaît le succès qu'il aura en solo. Son double 33 tours live, Frampton Comes Alive, est dans toute l'histoire du rock l'album en concert le plus vendu dans le monde. Il est remplacé au pied levé par un ancien du groupe Coliseum, Dave Clemson, un excellent guitariste qui durcit le son et tire le groupe vers un hard blues qui rencontre un succès foudroyant. Humble Pie fait un tabac avec le disque Smoking qui sort en 72. S'enchaînent des tournées aux États-Unis, au Canada, et les titres Hot and Nasty ou 30 Days in the Hole sont au sommet dans les charts. Trois autres albums suivront jusqu'en 75 et la séparation du groupe. Puis la bande se retrouve de façon épisodique jusqu'à la mort dramatique de Steve Marriott, brûlé dans l'incendie de sa maison en avril 91. Il n'avait que 44 ans. On écoute à présent Humble Pie au sommet de son art. 1972, Marriott est au chant, Clemson à la guitare sur ce classique du hard british passé à l'histoire, The Fixer. Vous êtes sur Radio MDM et c'est François au micro pour l'émission 15 on the Rock, le meilleur du rock et du hard, entre 1968 et 1983. Nous consacrons l'intégralité de ce 15 au groupe adulé à l'étranger, mais très injustement mésestimé ou ignoré en France. Parmi eux, les Irlandais que j'adore de Thin Lizzy. Thin Lizzy, c'est LE groupe de rock vénéré par-dessus tout à Dublin et partout dans la verte Irlande. Une adoration de tout un peuple qui a même valu à Phil Lynott, leader du groupe, d'avoir sa statue dans la capitale irlandaise. Les choses sont très étranges. Si vous évoquez U2 avec des Irlandais, le groupe, pourtant lui aussi originaire de Dublin, déclenche au mieux des mots dubitatives, voire même de solides moqueries. À leurs yeux, le seul vrai groupe de hard, c'est Thin Lizzy. Au crédit de cette bande, des paroles somptueuses de Lynott, adulées par tous les songwriters, des mélodies épiques, un son puissant mais qui reste groovy. Bref, un condensé de talent. Thin Lizzy, c'est avant tout une structure immuable, avec basse et chant Phil Lynott, un batteur exceptionnel, Brian Downey, et un guitariste californien, Scott Gorham. Et en alternance, en deuxième lead guitar, le virtuose Brian Robertson, Gary Moore ou encore Snowy White qui tournaient avec Pink Floyd sur les concerts. Leur producteur est celui également de Bowie, Tony Visconti. Alors écoutez plutôt le son percutant et la musicalité de Thin Lizzy avec un morceau phare de la bande, c'est Suicide, enregistré en 1975. Thin Lizzy est admirée dans le monde entier. Ses tubes sont repris. On peut citer Metallica qui jouait Whiskey in the Jar ou aussi Iron Maiden qui lui interprétait Massacre. U2 et Bon Jovi jusqu'à Sade ont également enregistré leurs compositions. Thin Lizzy a écrit un véritable hymne du rock, régulièrement chanté dans les stades de foot ou qui donne souvent des illustrations musicales de publicité. C'est The Boys Are Back in Town, un pur hit rock mais funky qui figure sur le 33 Jailbreak sorti en 76. Publié aussi en single, le titre cartonne aux États-Unis et en Angleterre. Il est écrit exclusivement par Thin Lizzy. Et ce titre fait partie, pour le magazine Rolling Stone, des 500 plus grandes chansons de tous les temps. J'ai choisi pour vous sa version live, enregistrée en 77 et inclue dans le double LP Live and Dangerous, considéré par la critique rock comme le meilleur album live jamais enregistré, et ce devant en numéro 2 Strangers in the Night, Dufault, et en 3 Made in Japan par Deep Purple. Alors si vous ne connaissiez pas Thin Lizzy, vous allez pouvoir désormais parler d'eux et les faire apprécier à leur connaissance. Leur rythme, The Boys Are Back in Town, 1977 sur scène. Dernier groupe totalement mésestimé en France dont je veux ici évoquer l'importance dans l'histoire du rock, ce sont les Anglais de Wishbone Ash. On peut parler à leur égard de vrais dinosaures du rock qui, pendant au moins 3 décennies, ont tenu la dragée haute à tous leurs contemporains. À l'origine, deux Gallois, Turner au chant et à la basse, et Upton, batteur, qui joue alors chez les Empty Vessels. Ils décident de tenter leur chance à Londres, recrutent 2 lead guitars, prennent le nom de Wishbone Ash et commencent à écumer les pubs dans le Londres underground, ouvrant pour T-Rex ou 10 Years After. Aux guitares, Powell et Turner offrent sur scène des duels d'impro virtuoses qui marquent le public. En 70, ils publient le superbe Wishbone Ash, mais c'est leur 3e 33 tours, Argus, en 72, qui les fait accéder au statut d'idole british du rock. Une musique lyrique, léchée, jamais trop lourde, très marquée par un psychédélisme mais accessible. Écoutez sur cet album Argus, The Kiln Will Come, ou encore, à présent, Warrior, un morceau archétype de la musicalité de Wishbone Ash que j'ai choisi pour vous. Fort de ses succès internationaux, Wishbone Ash ira s'expatrier en 75 aux États-Unis pour travailler entre autres avec Bill Slimczyk, le producteur de Eagles. Le son va alors se polisser, se standardiser et devient à mon avis plus commercial et moins inspiré. Mais les 6 premiers albums jusqu'en 74 étaient excellents. J'extrais de leur 4e disque dans la bonne époque, Wishbone 4. Notre dernier thème de l'émission, c'est Rock'n'Roll Widow. Voilà, 15 Under Rock, spécial groupe mésestimé, c'est fini pour aujourd'hui. C'était François au micro, je remercie Arnaud à la technique pour son appui efficace. Ne laissez pas dicter vos opinions et vos comportements par tous ceux qui surjouent les indignations mainstream. Continuez à écouter du rock, vous méritez mieux que Louane et Vianney. Salut les amis.
God.